Alors, les bandes continuent, tu peux les... Voilà, quand on coupe les commandes continuent, ça va vachement mieux. C'est bien 22h01, c'est bien la causerie, c'est bien dimanche. Accrochez votre ceinture, nous allons décoller loin, très loin, et c'est parti.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes à la causerie sur Radio Canus 102.2. Et ce soir, une émission un peu spéciale, un nouveau rendez-vous que vous allez apprécier, nous espérons. On vous en dit plus dans une petite minute, mais d'abord, je vais rappeler les infos principales et aussi dire qui est autour de la table. Alors, nous avons... Oh non, Jean-Yves et son rire diabolique.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Clara, la technique.
Bonsoir.
Et.
Mais qui est là?
Mais qui est là?
Georges.
Bonsoir. Bonsoir.
Tu vas bien?
Ah, formidablement bien. Merci. Bon.
Et d'ailleurs, si vous voulez écouter cette émission en podcast, parce que ce soir, vous avez préféré festoyer et écouter de la musique en plein air et gratuitement, on vous en veut pas. Hein. Vous pouvez nous réécouter sur le blog à
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Ou si vous préférez nous laisser un mot doux, nous écrire, vous pouvez le faire aussi à
lacauseriecanu@gmail.com.
C'est merveilleux. Et même que si vous êtes un peu curieux, que vous voulez voir des photos de nous, des tranches de vie et tout ça, vous pouvez nous retrouver sur Facebook.
Pardon.
C'est pas vrai du tout. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, mais ouais. Bah, vous aurez le même contenu que vous trouvez sur notre blog. Parce voilà. Qu'on n'est pas vraiment des aides de communication. Voilà, disons-le. Et ce soir, émission un peu particulière, donc tournée autour de notre invité Georges. Et de quoi qu'on va causer?
C'est à toi, Georges.
Merci. On va parler d'astronomie. On va essayer ensemble d'accomplir un voyage extraordinaire qui va nous emmener bien, bien, bien loin.
Alors, ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que Georges, tu es astrologue amateur, évidemment.
Pas du tout.
Non, c'était une blague. Astronome amateur, mais très, très éclairé. Donc, merci. C'est pour ça qu'on a eu l'envie de t'avoir dans l'émission. Et que ce soir, on va inaugurer une série d'émissions, parce qu'on peut déjà l'annoncer, qui auront lieu, donc, tu nous disais, à chaque changement de...
saison.
Ah, mais alors du coup, les saisons, Georges, explique-nous un peu.
Les saisons, à cette occasion, aujourd'hui, le solstice d'été, nous allons effectivement parler des saisons. Alors, les saisons, c'est... pas du tout la distance Terre-Soleil qui varie, absolument pas. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que c'est en été, dans l'hémisphère nord, qu'on est au plus loin du Soleil. C'est donc pas ça, la raison des saisons. Les saisons, elles sont dues, en fait, à l'inclinaison de l'axe de la Terre sur son orbite. L'axe est très incliné, il est toujours orienté dans la même direction de l'espace, l'étoile polaire. Et comme la Terre tourne autour du Soleil, cet axe, il est orienté à un moment de l'année en direction du Soleil et 6 mois plus tard en direction opposée. La conséquence, c'est que pour un hémisphère, nord ou sud, et quand l'axe est orienté en direction du Soleil, l'hémisphère nord, par exemple, reçoit plus d'énergie que l'hémisphère sud, c'est l'été dans l'hémisphère nord. C'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et inversement, 6 mois plus tard, quand cet axe est à l'opposé, cet axe nord, on reçoit moins d'énergie dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et c'est donc l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud.
Alors, si je te suis bien, Georges, ça veut dire que quand c'est l'été chez nous, c'est le moment où on est le plus loin du soleil.
Absolument. C'est donc pas ça la raison des saisons. C'est bien l'inclinaison de l'axe.
D'accord. Et donc, ça met à plat toutes les théories des climato-sceptiques qui nous racontent que c'est le soleil qui nous réchauffe la planète. Alors voilà, on voit une belle preuve que non, quoi.
Tout à fait. Tout à fait.
Ben, il faut poser des questions, les amis de la causerie.
Eh ben, moi, je vais le dire, je suis toujours scotché quand on parle, quand on parle des étoiles et du ciel et tout, parce que justement, enfin, on va essayer un peu, dans cette émission-là aussi, justement, essayer de se donner des notions de distance, de taille, parce que nous, petits terriens, ça dépasse un peu nos mesures, on va dire, habituelles, qui seraient le mètre, le centimètre, des fois le kilomètre, et là, on n'est plus à des milliers de kilomètres, des fois, on a des millions de kilomètres. Donc, l'idée, c'est aussi, là, essayer de, voilà, de donner un peu des éléments de compréhension de tout ça, parce que comme d'habitude, la causerie, c'est quand même pas un truc merde de professionnel. On peut tous essayer de comprendre un peu des choses. Donc, est-ce qu'on peut essayer de parler justement un petit peu de distance?
Alors, eh bien,
déjà dans notre galaxie, dans notre système solaire.
Peut-être déjà parler de la taille des différents éléments du système solaire.
On peut faire ça aussi.
Il est important de parler de distance, effectivement. On a ouvert cette émission sur le générique de Star Trek, le générique historique, le tout premier Star Trek, avec l'exploration interstellaire. On en est encore loin, même de nos jours, 30 ans plus tard, parce que les distances sont telles qu'il faut des années et des années de voyage pour... des milliers d'années de voyage pour rejoindre les étoiles.
Je veux dire que Georges, tu veux pas vieillir, d'accord, mais Star Trek, c'est il y a 45 ans. Quoi. Voilà. Mais vas-y, tu peux continuer.
Merci. Alors là, je vais vous demander, à vous tous qui nous écoutez, un gros effort d'imagination. On va tout de même réduire le système solaire à une échelle humaine. On va, par exemple, réduire la Terre à une petite bille de 1 cm, une bille de flipper, par exemple. 1 cm. La Lune, ça sera un petit poids qu'il faudra placer à 40 cm dans ces conditions.
D'accord, attends, la Terre, la taille d'une bille de flipper, et la Lune, la taille d'un petit poids.
Qu'on placera à 40 cm.
D'accord.
Eh bien, à cette échelle, le Soleil, qui est l'astre principal du système solaire, c'est une sphère de 1,40 m de diamètre à cette échelle. C'est 109 fois le diamètre de la Terre, le Soleil. 1,40 m.
Tout le monde suit? Ça va? Clara, ça va?
Ça va.
Ensuite, les distances. Eh bien, à cette échelle, toujours, il faudra placer la Terre à plus de 150 mètres du Soleil. Vous voyez que c'est pas tout près. On représente souvent le système solaire dans les pages des bouquins comme des planètes bien alignées qui sont les unes contre les autres. C'est pas du tout la réalité. Il y a énormément d'espace entre les planètes et ça explique pourquoi il faut autant de temps pour les rejoindre, pour envoyer des sondes et pour les explorer. À l'heure actuelle, il faut 10 ans pour rejoindre la dernière planète, Neptune. C'est un sacré voyage.
Alors donc, on a placé la Terre par rapport au Soleil, donc dans ton échelle, on rappelle, hein, donc le Soleil 1 mètre, tu disais
1 mètre 40.
1 mètre 40 de diamètre, la Terre a combien?
150 mètres.
Voilà, et alors, il y a d'autres planètes.
Absolument.
On n'est pas tout seul dans ce système, enfin, la Terre n'est pas toute seule.
Absolument.
Alors les autres se trouvent où à peu près?
Alors on a zappé les deux premières, qui sont Mercure et Vénus, qui sont entre l'orbite de la Terre et le Soleil. Et ensuite, l'orbite suivante, c'est Mars.
Et ils sont à combien, du coup, dans ton échelle?
Il faudra placer Mars à 250 mètres. Et la planète suivante est énorme, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter. Et Jupiter est tellement grosse qu'à cette échelle, c'est une balle de tennis.
D'accord. Par rapport au Soleil qui fait 1,40 m, on le rappelle, et la Lune, un petit poids.
Voilà. Et la Terre, une boule de flipper.
D'accord.
Une balle de tennis qu'il faudra placer à 750 mètres à cette échelle.
Et on commence
à de la place. Ouais.
Ouais, ça permet de voir là effectivement le gouffre qu'il y a entre chaque planète. Quoi.
C'est la raison pour laquelle il est bien difficile quand même de voyager pour l'être humain en direction des planètes. Pour Mars, ça se fera au cours de ce siècle, j'en suis persuadé. Pour le reste du système solaire, ça sera plus long.
Parce que Mars, c'est la proche banlieue de la Terre, c'est pas très loin.
Tout à fait. C'est la planète qui s'approche le plus de la Terre.
Donc dans ton échelle, elle est à combien, ça la met à combien ?
Mars, 250 mètres.
250 mètres.
En moyenne.
Ouais, moi je voudrais bien après que justement on retransfère ces valeurs-là aussi en réalité.
En kilomètres.
En kilomètres, en millions de kilomètres.
Ce qu'on peut déjà peut-être dire, c'est la Lune, elle est à combien de kilomètres de la Terre ?
400 000 kilomètres.
Voilà.
Hein, nous l'avions placé au départ à 40 cm.
À 40 cm,
forcément. Voilà. Ça. Donc après, il faut faire des calculs et vous voyez, 40 cm égale 400 000 kilomètres. 250 mètres.
Ou si vous préférez, 1 mm représente 1000 km. C'est une échelle ou un milliardième.
Oh, dit-il facilement. Oh, c'est une échelle ou un milliard, c'est bon quoi.
1 mm pour 1000 km.
Ok.
Et entre ces planètes, il y a quoi ?
Pas grand-chose. Pas grand-chose. On y trouve tout de même des petits corps, des astéroïdes qui sont en orbite autour du Soleil. Certains parfois s'approchent de la Terre. C'est toujours un peu effrayant. Mais je veux rassurer là tout le monde, on les connaît bien, on connaît bien leur trajectoire. Aucun ne nous menace au cours de ce siècle. Aucun.
Ah ben voilà une bonne nouvelle, on ne va pas finir comme les dinosaures, dis donc. Enfin, pas
au
comme
cours
ça,
de ce siècle.
Oui, oui ben bien entendu.
J'ai pas l'intention de passer ce siècle.
Ah non, moi non plus.
Donc du vide et quelques objets célestes comme ça qui se trimballent.
Tout à fait. Après Jupiter, que trouve-t-on après Jupiter ?
Mais
parce
oui.
qu'il y a d'autres planètes, que trouve-t-on ? On trouve la belle Saturne et ses anneaux, que tout le monde a vu en photo et certains en vrai.
Ouais.
Dit-il. Saturne est presque aussi grosse que Jupiter. Son anneau est bien plus grand. Saturne, il faudra la placer à cette échelle-là à 1500 mètres, 1 km et demi, donc, du Soleil.
Ah mais on s'éloigne très très loin quand même. Enfin, même en courant, ça commence à faire loin.
Oui, c'est ça, déjà, taille humaine, c'est déjà gigantesque.
Hein, je rappelle, hein, 1 mm pour 1000 km. Et à cette échelle, Saturne est à 1,5 km du Soleil.
Eh ben voilà.
Est-ce qu'on a encore une planète ou pas ? Moi, je suis très mauvais, hein, je l'assume pleinement.
Il nous en reste deux.
Ah, bah voilà, elle n'était pas si mauvaise.
Tu n'as pas appris tes planètes à l'école.
Si, mais j'ai tout oublié.
La planète suivante s'appelle Uranus. Alors, Uranus est plus petite que Jupiter et Saturne, mais cependant plus grosse que la Terre. Uranus, ce sera une bille, une sphère, oui, de la taille d'une balle de ping-pong à cette échelle. Mm-hmm. Et là, il faudra déjà la placer à 2,5 km du Soleil, toujours à la même échelle. Vous voyez que les distances s'agrandissent. Mm-hmm. D'où la difficulté de rejoindre ces planètes. Ça devient très très loin.
Et la dernière ?
Et la dernière, c'est Neptune. Neptune qu'il faudra placer à près de 5 km du Soleil.
On rappelle, c'est au 1 milliardième, tu disais.
Tout
donc,
à fait. Voilà. 1 mm pour 1000 km. Il faut la placer à 5 km.
Voilà, donc là, Jean-Yves, il se dit c'est très loin.
Bah ouais, je vais en chier pour y arriver, quoi. Mais enfin bon, non, mais...
Surtout en dos crawlé.
C'est ça.
Alors, en distance réelle, là, on est déjà à près de 5 milliards de kilomètres du Soleil. Avec Neptune.
Voilà. Un détail. Il y a une autoroute Vinci pour y aller ou pas ? Le péage est cher ou pas ?
Parce... Alors, on ne peut pas se déplacer en ligne droite si on veut aller sur Neptune, comme sur n'importe quelle autre planète, parce qu'elle tourne autour du Soleil. Si on la vise, eh bien, au moment où on arrive à aller plus là, ça demande des calculs compliqués. Il faut bien viser. On s'aide des autres planètes pour s'accélérer. Et c'est vrai qu'on a fait de gros progrès dans le domaine. Et c'est comme ça que le mois prochain, on a une sonde lancée il y a 10 ans qui va atteindre Pluton. et on n'a jamais vu Pluton de près. Donc je vous invite à bien suivre cela, on attend ça avec impatience. On ne sait pas à quoi ressemble Pluton, elle était trop loin.
Pluton qui a été déclassé...
Absolument, en planète naine, par l'Union Astronomique Internationale, il y a déjà plusieurs années.
Oh la pauvre.
Bah oui.
Donc tu classes Pluton.
Bah oui, moi de mon temps, quelle horreur. De mon temps, on la prête pas. Oui, c'était net. Non, mais on l'a placé encore dans le système solaire.
Mmh. Allez, mais dans le système solaire, ce n'est plus une planète.
Bah oui.
C'est une planète naine. La différence n'est pas énorme. Elle est bien plus petite que les autres, effectivement. Pluton est à peine plus grosse que la Lune. Pas tellement plus. En plus, son orbite est quand même très très allongée, très étirée. Et troisièmement, cette orbite, elle n'est pas dans le même plan que les autres. L'orbite de Pluton est très inclinée par rapport à l'orbite des 8 autres planètes.
Ce qui laissait à penser, tu disais que ce serait peut-être un corps qui vient de l'extérieur du système solaire au départ.
Soit qui vient de l'extérieur, ouais. Effectivement. Soit un ancien satellite d'une des grosses planètes, Uranus, Neptune, qui s'est échappé. Pour on ne sait pas quelle raison.
Ok. On fait une petite pause musicale ?
Oui.
Oui, allons-y.
Allez. Thank you.
C'est un violent arrêt de musical. Mais vous êtes toujours sur Radio Canu, à l'écoute de La Causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. On vient de s'écouter Vangelis avec le titre Alpha. Et donc ce soir, bah, La Causerie, on est un peu dans un voyage spatial en fait.
Interstellaire.
Interstellaire. Et donc on est avec Georges, qui est un astronome amateur. Et donc dans la première partie, on a discuté de taille des planètes, on a des distances qui séparent tout ça. Et tu voulais rajouter un dernier élément en fait, justement par rapport aux distances entre le Soleil et la Terre et tous les autres éléments. Alors je te laisse le rajouter.
Nous avions atteint Pluton avant la musique. Pluton qui n'est pas le dernier astre du système solaire. Le système solaire s'étend bien au-delà. C'est l'occasion de rappeler que le système solaire, c'est le système du Soleil. Et le Soleil, qu'est-ce que c'est ? Le Soleil, c'est une étoile. Une étoile, c'est-à-dire une gigantesque sphère de gaz en fusion thermonucléaire. C'est ce qui lui donne son énergie. On est très proche du Soleil, les autres étoiles sont extrêmement loin. Ça explique la différence d'aspect, la différence de lumière. Mais le Soleil est une étoile.
Et alors du coup, dans ton échelle, comme on disait, donc avec 1 mm égale 1000 km, elle est où l'étoile la plus proche après le Soleil ?
À cette échelle ?
Ouais.
Oups.
La plus proche, la plus loin ?
Non, la plus proche. Le Soleil, c'est la première qu'on rencontre en y allant.
Elle s'appelle Proxima,
ouais.
Constellation du Centaure. Et toujours à l'échelle réduite, 1 mm pour 1000 km, il faudrait la placer à 40 000 km à cette échelle.
Voilà. Donc c'est très 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 loin.
Tout à fait.
Et du coup, on utilise quoi pour parler de ces distances-là ? Parce qu'on ne parle plus en millimètres ou en kilomètres.
Bien entendu, en kilomètres, ça commence à faire trop. Si vous voulez, en kilomètres, réellement, l'étoile la plus proche est à 40 000 milliards de kilomètres. On va arrêter là avec les kilomètres.
Promis, j'arrête.
Ça fait trop de zéro, trop de puissance de 10. Et les astronomes parlent en années-lumière pour fixer les lointaines distances. L'année-lumière, c'est simplement le temps que met la lumière. C'est la distance que parcourt la lumière en un an. La lumière est extrêmement rapide, 300 000 km par seconde. Ça lui permettrait, par exemple, de faire 7 fois le tour de la Terre en une seconde. C'est énorme. C'est énorme. Et justement, pour fixer la distance des étoiles, pour partir bien loin, on va imaginer un petit rayon de lumière qui s'échappe du Soleil, là, maintenant, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ce rayon de lumière va arriver à proximité de la Terre que 8 minutes plus tard. C'est très rapide, 150 millions de kilomètres en 8 minutes. Il n'y a pas de radar sur son passage. Il va arriver vers Jupiter en 3 quarts d'heure, vers Saturne en 1h30. Il va arriver vers Neptune en presque 5 heures. Et après ?
Et après, il y a quoi ?
Plus grand-chose, mis à part quelques astéroïdes, des petits corps par million, mais qui sont de plus en plus loin et de plus en plus éparpillés.
Donc s'il a du bol et qu'il traverse tous les astéroïdes sans les toucher ?
Et bien après, il rencontre un vide fantastique où, après 6 heures de voyage, il ne va absolument plus rien rencontrer pendant 4 ans. 4 ans.
C'est terrible.
Avant d'arriver à l'étoile la plus proche.
C'est angoissant au possible pour ce petit rayon de soleil.
Oui, oui, les étoiles sont bien isolées entre elles.
Donc pendant 4 ans, le vide absolu jusqu'au système suivant.
Voilà, c'est tout à fait ça. 4 ans, 4 années de lumière. Voilà ce qu'est l'année-lumière.
C'est rien, il y a des gens qui se baladent dans Radio Canu, tout va bien. 4 années de lumière, c'est comme ça qu'on définit en fait. Donc on dit Une année de lumière, c'est, tu disais, ça représente, pour juste une fois en kilomètres, ça fait combien ?
10 000 milliards.
Voilà, bon.
Ou 10 puissance 13 pour les
Donc
mathématiciens.
Après, on oublie les kilomètres.
10 puissance 13 kilomètres, vous 10 000 milliards.
Vous avez ça en tête. Et donc, la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche, c'est 4 années de lumière.
C'est cela.
Ah oui, ça fait beaucoup, 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 très, très loin.
J'en reviens à Star Trek, parce que c'est... Ça nous fait rêver, hein, effectivement, avec des vaisseaux spatiaux en distorsion. Ouais. Ils rejoignent, ils se baladent d'une étoile à l'autre en quelques heures. On en est très très loin. Avec notre technologie actuelle, j'ai recalculé le truc, c'est-à-dire à environ 100 000 km à l'heure, hein, on ne peut pas faire mieux. Il nous faudrait 70 000 ans pour rejoindre cette étoile la plus proche.
S'il y a des volontaires, vous pouvez appeler le 0. 36. Donc 70 000 ans avec la technologie qu'on a aujourd'hui pour aller se balader à Proxima du Centaure, c'est ça ?
Tout à fait. C'est le système qui est mis en scène dans Avatar.
Ah oui, d'accord. Oui, pour les cinéphiles. Alors donc, d'ailleurs, ils mettent 4 ans dans Avatar.
Ils mettent 5 ans, ouais. Ils sont forts.
Ils sont balèzes.
D'un côté, ils ont des queues bleues, alors.
Ils font ce qu'ils veulent, en fait.
Eh bien, Emma.
Donc du coup, tu parlais tout à l'heure de distance et des étoiles, justement. Est-ce que toutes les étoiles sont identiques dans, voilà, est-ce qu'elles ressemblent toutes au Soleil, ou est-ce qu'elles sont chaque étoile est unique?
Chaque étoile est unique, absolument. Absolument. Il en existe de bien plus froides que le Soleil, il en existe de bien plus chaudes, il en existe des plus petites, il en existe des plus grosses, des énormes.
Et alors, quand elles sont plus chaudes ou plus froides, elles ont des couleurs différentes, du coup ?
Oui, quand elles sont plus froides, elles ont tendance à être rouges. Et au contraire, quand elles sont très chaudes, elles ont tendance à être bleues.
Et quand on faisait la prépa, je crois, si je me souviens bien, tu parlais justement, enfin, parce que d'une étoile, quand tu disais, il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont aussi plus grandes que le Soleil. Est-ce que tu pourrais donner là aussi un ordre d'idée, enfin... J'imagine bien qu'on va avoir du mal à s'imaginer 15 000 fois le Soleil, mais c'est toujours intéressant, je trouve, justement, de voir la diversité au final qui nous entoure. C'est quand même assez intéressant.
Alors, certaines étoiles sont simplement 10 000 fois plus brillantes que le Soleil. 10 000 fois.
Simplement 10 000 fois.
Heureusement qu'elles sont loin. Parce que, effectivement, si on mettait une telle étoile à la place du Soleil, la Terre serait vaporisée, ouais, totalement vaporisée. Ouf,
tout va bien. donc tu disais, et en niveau de la taille, tu disais, Jean-Yves, il y a des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil qu'on connaît.
Oui, la plus grosse qu'on connaît, ça fait à peu près 4000 fois le diamètre du Soleil. Voilà. 4000
fois. 4000
fois.
C'est dur à imaginer. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est très dur à visualiser. Mais on imagine bien un objet qui est 4000 fois plus gros, genre de la fourmi à l'homme, quoi. Et tu dis, tiens. Il y a le Soleil et puis il y a l'autre.
Le truc. C'est ça.
Je ne connaissais pas son nom. Hein.
Alors donc, effectivement, les étoiles qu'on voit le soir dans le ciel sont plus loin encore que Proxima.
Ouais.
Proxima étant la plus proche. Et parmi les étoiles proches, certaines sont très brillantes, bien repérables dans le ciel. Et actuellement, on voit de mieux en mieux l'étoile Vega, qui est de la constellation de la Lyre. On la voit le soir après la tombée de la nuit, 23h en cette saison, hein, 23h30. On la voit le soir en direction de l'horizon Est. Elle est à 20 années de lumière. C'est une des 100 étoiles les plus proches de la Terre et du Soleil.
20 années de lumière et c'est proche.
Oui. C'est déjà 5 fois plus loin que Proxima.
Ouais,
mais les astronomes n'ont pas vraiment la même notion de distance que nous-mêmes.
Vega est très brillante, elle se repère très facilement dans le ciel d'été. Oui. C'est l'étoile la plus brillante du ciel d'été.
Mais du coup, toi, Georges, quand tu voyages, si on te dit c'est à 3000 km, ça te paraît être juste à côté, quoi. Et c'est bon, c'est pas loin. Non, mais moi, d'habitude, je vais à 20 années de lumière. Et alors, quand tu regardes, justement, donc ça veut dire qu'il y a 20 ans de décalage entre la lumière qui nous provient de cette étoile. Enfin, quand on la voit, en fait, on voit sa lumière d'il y a 20 ans, c'est ça ?
Tout à fait. Le temps qu'a mis sa lumière pour nous parvenir. Donc 20 ans, il y a peu de chances qu'elle ait changé d'aspect. Mm-hmm. C'est trop peu dans la vie d'une étoile. Mais effectivement, on voit Vega telle qu'elle était il y a 20 ans. Tout à fait. Et puis plus on regarde loin, et plus c'est vrai.
Plus c'est vrai, c'est-à-dire ?
Par exemple, quand on regarde une autre étoile bien visible dans le ciel d'été, qui s'appelle Deneb. Deneb est à près de 1000 années de lumière. Elle est presque aussi brillante que Vega, quand même, dans le ciel. C'est dire quelle étoile, quoi. Parce qu'elle est bien loin, extrêmement loin.
Elle doit être beaucoup plus brillante que le Soleil et que Vega, c'est ça ?
Absolument.
Pour qu'on puisse la voir quasi identique dans le ciel.
Absolument. Cette étoile, Deneb, est un des phares de la galaxie et elle est presque 100 000 fois plus brillante que le Soleil.
Mais ce qui veut dire, quand on l'observe, Deneb ?
Deneb.
Ça veut dire que ce qu'on en aperçoit quand on regarde dans la lunette, ça veut dire que ce que tu en aperçois, enfin, je ne sais pas comment dire.
Tu la vois telle qu'elle était il y a 1000 ans.
Voilà, c'était à ça que je voulais arriver. Et donc, ce qui sous-entend, c'est ça qui, moi, je trouve aussi assez... assez intéressant et extraordinaire, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on peut regarder des choses en fait qui sont mortes en fait, parce que le temps que la lumière nous arrive, etc., et que même la fin de cette lumière arrive, il y a un temps.
Ah, mais tout à fait. Alors, encore une fois, 1000 ans, c'est trop peu dans la vie d'une étoile. Les étoiles subsistent pour certaines des milliards d'années. Pour les plus brillantes, des millions d'années, mais 1000 ans, c'est encore trop peu pour qu'elle ait beaucoup changé d'aspect. Mais c'est tout à fait vrai.
Et d'ailleurs, juste pour qu'on se rende compte, comme ça, le Soleil, il a combien de milliards d'années ?
Alors, le Soleil a pas loin de 5 milliards d'années d'existence.
C'est un genou encore.
Mm-hmm. Il est à la moitié de sa vie, à peu près.
Voilà.
Ça veut dire que le Soleil va mourir.
Ça veut dire ça, mais dans 5 milliards d'années. Donc tout va bien. Tout seras plus bien. Là, Emma.
Je serai plus là, mais je pense à la postérie.
Je pense qu'on en reparlera. Nous allons revenir aux distances.
Oui, non, mais c'était pour que les gens se rendent compte. Parce que juste comme ça, on tease un petit peu sur le fait qu'il y aura d'autres émissions et que la prochaine sera sur la formation des planètes et des étoiles. Donc il faudra revenir. Voilà, on vous dira ça à la fin. Tout ça, ça va être bien. Vous allez voir.
Et je voulais juste préciser, les astronomes ont une approche de la distance différente, mais aussi du temps. Non, mais il y a quelque chose de justement, enfin, c'est tellement gigantesque que effectivement, je pense qu'on se rend compte que le temps est tout relatif.
Ah, absolument.
Comme dirait Einstein.
Ouais.
Musique ou
C'est ce que j'allais vous proposer, une petite pause musicale. Allons-y.
Et oui, vous êtes bien toujours dans la causerie, dimanche 22-23. Vous commencez à planer très très loin sans prod. Ah, ça marche, vous voyez, juste avec de la musique et avec Georges qui nous parle de l'univers et qui nous fait voyager dans des distances improbables pour nous, mais qui sont réelles. Voyons, on va continuer après. Juste dire que c'était Oxygène 4 de Jean-Michel Jarre et que c'est Georges qui a fait la sélection de la musique, des musiques de ce soir, comme d'habitude, quand on a un ou une invitée.
Oui. Voilà.
Alors Georges, on a bien voyagé là. On est parti très 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 loin, mais il y a beaucoup plus grand, il paraît.
Oui, nous avons atteint les premières étoiles. Proxima du Centaure, Vega, même Deneb. Avec Proxima, nous étions à 4 années de lumière du Soleil. Et je tenais à dire que 4 années de lumière, c'est à peu près la distance qui sépare chacune des 100 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. 100 milliards d'étoiles.
Oui, redis-le.
Avec
100 milliards d'étoiles dans la
avec
galaxie.
Avec 4 années-lumière entre chaque étoile.
Voilà. Non. Oui, vas-y.
Non, j'allais faire mon chœur.
On a tous entendu parler de galaxies. Ben, voyez, les galaxies sont des systèmes immenses, extrêmement vastes, où même la lumière met du temps pour aller d'un bout à l'autre.
Ben, c'est sûr, oui.
Pour notre galaxie, ça représente 100 000 ans pour la lumière. 100 000 ans de voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Voilà la taille de notre galaxie.
100 000 années-lumière.
100 000 années de lumière.
Waouh. T'allais dire que...
Justement, j'allais revenir nouveau à
l'emmerdeur. Au kilomètre, n'est-ce pas ?
Non, mais parce que c'est incroyable qu'entre... Enfin, ça dépasse réellement nos capacités d'imagination, enfin, je pense, d'appréhension, en fait, de distance. Et c'est vrai que te dire qu'entre chaque étoile, déjà, qui sont quand même au nombre de 100 000...
100 milliards.
100 milliards.
Dans notre galaxie.
Dans notre galaxie, il y a quand même 4 années de lumière entre chaque étoile.
C'est ça.
Alors, sachant qu'une année de lumière, c'est...
Je sais plus. 4.
C'est 10 000 milliards de kilomètres par année de lumière.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 milliards de kilomètres entre chaque étoile et le nombre d'étoiles est de 100 milliards.
C'est ça.
Tout simplement.
C'est ça. En fait, c'est très simple.
Vous voyez, quand on parle de chiffres astronomiques, on parle.
Mais quand on arrive au bout de notre galaxie...
On tombe ?
Non, c'est pas ma question. On voyage encore combien de temps pour aller à la rencontre d'une autre galaxie ?
Ouh là là. On rencontre d'autres galaxies, bien sûr, toutes composées de dizaines ou centaines de milliards d'étoiles, chacune d'entre elles. Puis plus on va loin et plus on en rencontre. La grande galaxie la plus proche de la nôtre s'appelle la galaxie d'Andromède, du nom de la constellation dans la direction dans laquelle on la voit. Andromède est déjà à 2 millions d'années de lumière.
Voilà un petit détail. Donc il faut 2 millions d'années à un rayon de lumière pour passer de notre galaxie à la galaxie d'Andromède.
Tout à fait.
Je ramène un peu voilà, pour que les gens comprennent.
Tout à fait.
Tu nous disais qu'Andromède, comme on dirait dans South Park, elle fonce droit sur nous.
Absolument.
mais du coup, quand tu dis... parce que les astronomes, ils disent elle fonce. Mais ça veut dire quoi, foncer droit sur nous ?
Bon, environ... pas plus de 400 km par seconde.
Ouais,
non, mais ça veut dire qu'il y a 2 millions d'années-lumière entre nous. Donc, on va pas refaire le calcul en kilomètres, mais c'est très très loin. Mais elle fait 400 km seconde vers nous.
C'est ça.
Ou nous, on va vers elle. Je sais pas trop dans quel sens ça va.
Oui, c'est difficile de déterminer. Bon, en fait, on va plutôt vers elle parce qu'elle est plus massive que nous. Elle a la plus de matière. C'est donc plutôt elle qui nous attire que le contraire.
Rappelons que c'est l'effet de...
La gravité.
Voilà. Non, mais parce qu'on ne l'avait pas dit. Donc...
Oui, oui, tout à fait.
Donc la gravité, c'est plus l'objet est massif, plus il attire ce qui est autour de lui.
Tout à fait.
Voilà.
Bah oui, c'est...
Mais rassurez-vous, il faudra du temps avant qu'elle arrive ici.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait des galaxies qui se rendent dedans ?
Ah, bah en réalité, pas grand-chose. Je vais vous décevoir.
Oh,
pas grand-chose. Pas grand-chose, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la distance entre les étoiles est telle qu'il n'y a quasi aucune chance que deux étoiles s'entrechoquent. Les étoiles vont passer au large les unes des autres. Les étoiles vont passer au large les unes des autres sans se toucher quasiment. Ça va déformer les galaxies, elles vont changer de forme et puis elles vont continuer leur chemin.
Tranquille.
Tranquille.
Elles peuvent s'échanger des étoiles quand
Absolument. Même. Absolument. Elles peuvent s'échanger des étoiles au passage.
T'en donnes une, bah ouais. Tu m'en prends deux.
Genre comme des cartes Pokémon, tu vois.
Absolument.
Ouais. Ah mais c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que potentiellement notre galaxie telle qu'on la connaît là, elle a déjà croisé d'autres galaxies. Et que du coup, il y a peut-être eu des échanges comme ça, des choses.
Elle peut être amenée à croiser.
Ou elle peut être amenée à croiser.
Elle a une forme bien régulière, notre galaxie. Donc on ne pense pas.
D'accord.
Par contre, il faut savoir qu'il y a deux petites galaxies qui sont plus proches d'Andromède. Ouais. Ce sont des galaxies naines qui sont bien visibles dans le ciel de l'hémisphère sud et qu'on appelle les nuages de Magellan.
D'accord.
Ce sont réellement de petites galaxies qui sont satellites de la nôtre et qui, bah, elles, sont bien stables.
Elles font pas droit sur nous.
Non.
Et alors, du coup, depuis tout à l'heure, on parle de planètes naines, de galaxies naines. En astronomie, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire petit objet ou, enfin, je sais pas comment.
Tout simplement.
Il y a pas de classification spécifique pour dire on dit naine quand il y a ça ou ça. Juste c'est quand c'est petit, quoi. Mais c'est quoi une petite galaxie, du coup?
Bon, les nuages de Magellan font quelques milliers d'années-lumière.
Ah ouais?
Oui.
Non. Pas plus.
C'est déjà un inconséquent. Quoi. Et oui, alors du coup, parce que c'est moi qui ai un peu digressé, alors je vais ramener. Tu parlais du fait qu'il y avait donc 100 000 étoiles, non 100 000, alors je
100
sais
milliards.
Plus. 100 milliards? Non,
attends, 100 000 milliards.
Non, 100 milliards d'étoiles 100 milliards. Avec 4 années lumière entre chacune. C'est enfin, suivez. Le mec, c'est le seul truc qu'il a compris.
Il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Ouais. Ça veut dire que potentiellement, il y a 100 milliards de systèmes.
Tout à
comme
fait.
Comme le système solaire.
Tout à fait.
Donc la probabilité que d'autres planètes puissent abriter la vie ailleurs est extrêmement élevée.
Elle est énorme. Elle est énorme. Donc, c'est la réalité. Hein. Nous avons découvert, depuis quelques années, des centaines de planètes autour des étoiles, des autres étoiles. On les appelle les exoplanètes, par différentes techniques. Et pour l'instant, on n'est pas encore capable de découvrir des planètes de la taille de la Terre. Celles qu'on découvre sont légèrement plus grosses. Mais ça viendra, c'est qu'une question de temps. Et par conséquent, effectivement, on peut imaginer que parmi ces planètes découvertes, certaines puissent abriter la vie, et même, pourquoi pas, la vie intelligente.
Waouh. Ça fait rêver. Hein.
Oui.
Mais
oui.
Qui n'a pas forcément apparence...
d'humanoïde.
Une humanoïde, quoi.
Ah, ben bien sûr. On est incapable de dire à l'heure actuelle à quoi ressembleraient des êtres intelligents sur d'autres planètes. Il n'y a aucune raison qu'ils nous ressemblent. Contrairement à ce que l'on voit dans les séries.
C'est de l'ordre du fantasme, en fait, quoi.
Oui, parce que du coup, c'est ce qu'on disait pendant la préparation, mais on est une planète qui est quand même assez jeune. Du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres planètes vieilles. Et du coup, selon la théorie de l'évolution, on est des êtres assez jeunes. Et s'il y a d'autres êtres vivants, ils peuvent être vieux, vieux, mais qui ont eu surtout plus le temps d'évoluer.
Ah, mais carrément.
Très différemment.
Carrément, oui. À l'échelle de temps de l'univers, l'être humain est apparu sur Terre il y a un instant seulement. Un instant.
Ça relativise bien, hein, l'autre côté un petit peu, ouais, on est au centre du monde et tout. Non, ouais, ça fait deux secondes que t'es là. Quoi.
Et voilà.
Et d'ailleurs, on peut rappeler juste comme ça pour les auditrices et auditeurs qu'il y a eu plus longtemps les dinosaures sur Terre, largement plus, que les êtres humains Homo sapiens sapiens.
Tout
en termes de temps géologique, c'est intéressant de voir que on est finalement là, pas là depuis très longtemps, quoi.
Tout à fait. Bon. Ça nous remet à notre place. Hein.
Ouais, ça met une bonne claque. Et donc, on a fait la taille des galaxies et l'univers. C'est grand, l'univers.
Oups.
Parce que l'univers, on est d'accord, c'est ce qui regroupe tout ce qu'on connaît. Enfin, tout ce qui a été, répertorié. C'est comme ça que vous dites
en
astronomie.
On peut dire ça. Ouais. Tout à fait, oui. Eh bien, on se rend compte que les galaxies ne sont pas isolées. dans l'espace. Elles sont réunies dans des amas de galaxies. Le nôtre est un petit amas relativement pauvre qui possède une dizaine de galaxies, ça ne va pas chercher bien loin. Mais quand on va plus loin, l'amas suivant, qu'on appelle l'amas Virgo, l'amas de la Vierge, est énorme. Il a plusieurs centaines de galaxies en son sein. C'est un amas qui, là on va un peu plus loin, est situé à 50 millions d'années-lumière de nous maintenant.
Oh bah oui,
oui bah.
L'approche banlieue là, encore une fois.
Et oui, Jean-Yves, quand on le regarde, quand je le regarde au télescope, parce que
quand tu regardes Jean-Yves au télescope,
eh bien je vois cet amas tel qu'il était en réalité il y a 50 millions d'années, c'est-à-dire assez peu de temps après la disparition des dinosaures sur Terre. Bien avant l'apparition de l'homme.
Donc potentiellement, tu vois quelque chose qui n'existe plus.
Probablement.
Ouais, c'est fantastique, quoi, d'imaginer ça.
Ouais, c'est ça que j'aime, en fait. C'est que ça perturbe tous nos... C'est, en fait, c'est ça qui est vraiment, vraiment super intéressant, parce que moi, j'ai déjà eu la chance, effectivement, de faire l'observation avec toi, et tout ça, c'est... Ça nous demande, effectivement, de je ne sais pas comment dire, c'est une remise complète en question de ce que c'est que l'humain au milieu de cette petite boule bleue là, qui s'appelle planète Terre, mais qui, au regard de tout le reste, est un grain, c'est un grain de sable, quoi, en fait.
Oui, c'est un grain insignifiant dans l'univers et qui pourtant a tellement d'importance pour nous.
Ouais, c'est sûr.
Et en même temps, on se prend tellement au sérieux, enfin, c'est dingue, alors que ça tient à pas grand chose non plus, quoi.
Et du coup, il est où Dieu?
Joker.
Non, ça c'était une blague. Non, mais on n'a pas donné la taille de l'univers, du coup tu disais...
Ni l'adresse de Dieu.
Ni l'adresse de Dieu. Non, mais du coup, l'univers, ça se situe...
Eh bien, oui, quand on c'est continue, estimé, ces amas se réunissent eux-mêmes en super amas.
Ouais.
Oui, parce que, ben, encore une fois, la gravité...
La gravité, ouais, toujours.
Hein, la gravité qui a tendance à réunir la matière en super amas. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, là, c'est l'expansion de l'univers. Mmh. Les galaxies semblent se fuir les unes aux autres, sauf dans les amas où elles sont suffisamment concentrées pour que la gravité l'emporte, et où elles ont, là, dans les amas, tendance à se rapprocher, au contraire. C'est pour ça qu'on va prendre Andromède dans la figure dans un milliard d'années.
Ah bon, ça va alors. Et donc c'est... Donc,
mais globalement, le mouvement général, c'est l'expansion.
L'expansion, et on estime à combien cette distance... Enfin, si c'était sphérique, parce qu'on ne sait même pas si c'est sphérique l'univers du coup.
Et non, et on ne connaît pas sa forme générale. Ouais. Si on peut parler de forme générale de l'univers. À grande échelle... Ces super amas de galaxies se réunissent en fil, comme un filet,
ouais,
comme une trame dans l'univers. C'est ce à quoi ressemble l'univers à très grande échelle. Quand je dis à très grande échelle, c'est au maximum de possibilités de nos moyens d'observation aujourd'hui, de nos jours. Pour fixer les idées, moi j'ai un télescope relativement puissant, mais... Au-delà de 500 millions d'années de lumière, pas plus, je ne vois plus rien.
Ah oui, c'est pas de bol ça.
C'est trop loin. C'est extrêmement faible à 500 millions d'années de lumière.
Et on sait que ça va beaucoup plus loin encore.
Mais oui. Ouais. Oui, avec les instruments actuels, eh ben, on a des galaxies qui sont encore visibles à 15 milliards d'années de lumière de nous.
Gigantesque.
Alors rappelons pour les auditrices auditeurs, ça veut dire que la lumière a mis 15 milliards d'années pour nous arriver. Voilà, pour que les gens se rendent compte voilà, du temps. C'est, voilà. Donc ce qu'on voit est forcément totalement faux par rapport à la réalité présente
totalement.
De ce qu'on regarde en fait.
Totalement.
Ouais, c'est
15 milliards d'années, c'est beaucoup même pour une galaxie.
Ah, bah oui, c'est sûr.
Totalement.
Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts.
Moi, je propose qu'on se fasse tourner la tête avec de la musique, là.
Oui. Ouais, disons ça, allez.
Thank you.
oui, vous êtes de retour à la causerie pour la dernière partie de l'émission. Et on vient d'écouter à l'instant la OST, la bande son d'Interstellar avec la docking scene. Et on est toujours en compagnie de Georges. Et pour clôturer l'émission, on voulait un peu vous indiquer en ce moment, il y a quoi qu'à voir dans le ciel.
Il y a quoi qu'à voir.
Sans outils spécifiques.
Oui,
à l'œil nu. Plusieurs choses. Eh bien, si vous regardez en ce moment, si le ciel n'est pas trop couvert, en direction de l'horizon ouest, vous avez deux astres très brillants, comme de très brillantes étoiles, qui sont en réalité deux planètes. Elles sont côte à côte et elles vont se rapprocher d'ailleurs au fil des jours et des semaines. C'est Vénus et Jupiter. Et la Lune est dans le coin ce soir, et pour 24 heures encore. Ça fait un ensemble magnifique. Regardez bien vers l'horizon ouest. Donc Vénus, très brillante, Jupiter juste à côté, un peu moins brillante, et la Lune qui s'est invitée
au bal.
La coquille.
Et moi j'avais peut-être juste un truc aussi, parce que quand on a préparé tout ça et qu'on a un peu observé, même en ville, on a un peu observé le ciel, tu disais en fait, pour faire la différence entre une planète et une étoile, il y a quelque chose de très simple en fait, c'est qu'une planète ne scintille pas, c'est ça ? Je me trompe pas ?
Tout à fait.
Donc si vous regardez des objets dans le ciel et que vous voyez que ça ne scintille pas, il y a des chances que ce soit Jupiter ou Vénus. En
absolument.
Fait.
Et si vous regardez un objet dans le ciel très brillant qui ne bouge pas, qui ne scintille pas, mais qui s'éteint à 6h du matin, c'est que vous êtes bourré, que vous regardez un lampadaire. Rentrez chez vous. Très bien. Rentrez chez vous, c'est plus la
peine.
Pardon.
Je croyais que tu avais parlé. Non, mais alors, parce que il y a autre chose qu'on peut
écoutez,
observer.
Je savais que parler du ciel était enivrant, mais
non, mais parce qu'il y a aussi autre chose qu'on peut regardeur qui n'est ni une planète ni une étoile, mais qu'on peut voir aussi, c'est la station Mir.
Non, pas Mir, elle est déjà,
non, pas
elle
station
est,
Mir,
elle est morte
pardon,
Mir depuis longtemps.
La station internationale.
L'ISS.
L'ISS. Et ça, c'est pareil, c'est juste génial en fait. Ça va pas changer vos jours, hein, je dis pas l'inverse, mais c'est juste se dire que, on voit des gens qui sont très très loin au-dessus de nous.
Elle est tellement brillante qu'on ne peut pas la rater quand elle passe.
Donc elle passe, elle traverse le ciel.
Elle traverse le ciel.
C'est un point lumineux qui traverse
tout
le ciel. Ouais. Et rappelle-nous, elle est à combien de kilomètres la station ISS ?
Elle est à quelques centaines de kilomètres. Elle est très proche de la surface malgré tout. Il me semble que c'est 400 kilomètres.
Ouais. Et ils vont à 36 000 kilomètres secondes.
Oui, ce qu'ils font, ce qui fait qu'ils font le tour de la Terre en une heure et demie.
Voilà.
Je vous dis pas le nombre de fois qu'il voit le soleil se lever et se coucher au cours de la journée.
J'ai dit une bêtise, 36 000 km/h du coup, parce que kilomètres secondes ça fait beaucoup. D'accord. Et autre chose qu'on peut voir ?
Alors si on regarde toujours maintenant, là, à 23h, en direction de l'horizon sud cette fois, on a un astre moins brillant, mais qui lui non plus ne scintille pas. Il faut essayer de le différencier des étoiles qui scintillent énormément. Cet astre légèrement jaunâtre qui ne scintille pas, bien visible à l'œil nu malgré tout, c'est la planète Saturne. Vous savez, Saturne est son anneau. Dans un télescope, c'est absolument merveilleux. Mais nous la voyons quand même dans le ciel, à l'œil nu.
Et ben après ces trois petites indications et propositions d'observation, on peut peut-être aussi, peut-être que tu peux aussi parler de, on a aussi évoqué entre nous le planétarium de Vaux-en-Velin, et tu en disais énormément de bien.
Oui, c'est très très bien. Moi, je vous invite à aller assister à une séance, voire plusieurs. C'est vraiment très très bien, où on vous explique le ciel simplement. C'est un beau spectacle, ce qui ne gâte rien.
Et si on a envie de faire de l'observation, il y a des clubs pour ça ? Parce qu'il y a des clubs de maquettistes, ou bien avoir des clubs d'astronomes.
Il y a malgré tout des centaines de clubs sur le territoire français. Oui. Et certains ne sont pas très très loin, notamment à Chaponnay, dans la banlieue de Lyon, c'est vraiment pas très loin.
Sud-est de Lyon, pour ceux qui connaissent.
Mais oui, où nous nous réunissons le mercredi soir. Et où on invite volontiers les gens à venir passer nous voir. On peut leur montrer les planètes, on le fait très souvent. On sort les télescopes devant le local du club et on montre les planètes aux gens qui viennent nous voir. Donc le club est situé à Chaponnet, à la Maison des Associations.
Maison des Associations de Chaponnet, tous les mercredis soirs.
Tous les mercredis soirs, à partir de 20h30.
Voilà, mm-hmm. Bah, la nuit forcément.
Nous y sommes jusqu'à minuit. Donc,
d'accord.
Je vous invite à passer nous voir.
Donc si ce que Georges vous a raconté ce soir, vous voulez en savoir plus, passez le voir à Chaponnet.
Tout à fait.
Il est là tous les mercredis soirs avec son gros engin pour vous montrer, pour vous montrer bien les étoiles.
Et puis pour ne pas se mentir non plus et jouer les faux culs, on est plusieurs à avoir pu faire de l'observation. Enfin moi c'était une des premières fois, ouais. C'était la première fois que j'en ai fait il y a peut-être un an ou deux. Et c'est, enfin vraiment je vous le conseille, c'est waouh quoi. Enfin, on peut voir la lune comme si on y arrivait. Il y a quelque chose. Enfin, moi, j'ai l'impression en fait qu'on devient vachement gamin. Et ça, c'est vachement jouissif en fait. Alors peut-être que c'est ouais, moi, il y a que moi qui me sens très gamin quand je regarde le ciel. Mais
non, c'est qu'on réapprend. C'est-à-dire qu'on découvre des choses qu'on ne connaît pas, ce qui est magnifique quoi.
Et effectivement, bien l'anneau sûr. De Saturne, c'est waouh.
Et d'ailleurs, Georges va vous inviter chez lui bientôt. Non. Alors, moi, j'ai une question, c'est au niveau littérature, magazine, tout ça, parce qu'il y a plein de magazines un peu pourris sur les soi-disant UFO, là, comme on dit, les ovnis, tout ça et tout. Bon, ça, c'est de la connerie. Mais qu'est-ce qu'il y a comme de trucs sérieux qu'on peut...
Il y a plusieurs revues intéressantes. Ouais. On peut en citer deux. Ouais. Une qui est assez vieille et assez connue, c'est Ciel et Espace. Mm-hmm. Qui paraît une fois par mois en kiosque ou abonnement.
Ouais.
Il y a aussi une version
numérique
sur le net, oui, tout à fait. Et l'autre revue d'astronomie, assez célèbre aussi, s'appelle Astrociel.
Astrociel.
Elle se trouve aussi en kiosque.
Donc Ciel et Espace et Astrociel. Et tout ça, on le trouve chez son marchand de journaux.
Absolument.
Et c'est assez abordable ou il faut quand même avoir déjà, je ne sais pas comment dire, avoir déjà quelques bases, quelques notions de.
Pour Ciel et Espace. Je dirais ça va.
Ouais.
Oui.
Ok.
C'est abordable.
Ok.
Pour astro ciel, plus compliqué.
Oui. Un petit peu plus.
C'est plus pour des gens qui sont chevronnés et habitués.
Pour des amateurs, pour des astronomes amateurs.
Amateurs éclairés, comme on dit.
C'est ça.
Ça tombe
ceux
bien.
Ceux qui ont des classeurs avec des cartes des étoiles.
Par exemple.
De qui parles-tu?
Et qu'il y a plein des millions, des milliards d'étoiles. Enfin, c'est génial.
De qui parles-tu, Jean-Yves?
Je ne sais pas. Eh ben,
on va bientôt se quitter.
Ouais,
oui.
Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Georges? Je sais pas. Est-ce que tiens, il y a des rendez-vous cet été d'observation en fait. Alors pas forcément dans le club dans lequel tu es, mais est-ce que à travers la France, il y a des événements comme la Nuit des Étoiles ou des choses comme ça?
Oui, comme chaque année, c'est le week-end du 7 août cette année.
C'est ça.
Avec la Nuit des Étoiles. Autrefois, c'était la Nuit des Étoiles filantes, parce que effectivement, au mois d'août, il y a un essaim d'étoiles filantes dans le ciel, autour du 11 août.
On traverse un truc, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Ouais, et ça, je vous laisserai chercher.
Ça s'est transformé, au bout de quelques années, en simplement la Nuit des Étoiles.
Ok.
Donc c'est l'occasion là de faire de l'astronomie facilement auprès de chez soi.
Oui, la plupart des clubs font des animations ouvertes au public et gratuites.
Et gratuites.
Voilà.
Foncez.
Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être déjà annoncer?
Non, vas-y. C'est pas ça. Moi, je lui sais. C'est que Georges va revenir.
Ah, c'est ça.
Ben voilà.
Et revient quand alors du coup?
Pour l'équinoxe d'automne.
Ouais.
Pour chaque changement de saison.
Exactement. Ouais.
Et donc ça, c'est le 20 septembre, la prochaine émission. Et on parlera de quoi, ouais. Georges, alors du coup, dans celle-là?
On parlera de la formation du système solaire, la formation du Soleil, la formation des planètes, et par conséquent, de la formation de la Terre.
Et juste pour donner encore une fois le vertige, nous sommes sur une planète lancée, vu qu'on tourne autour du Soleil, lancée à combien de kilomètres heure dans l'espace?
Es-tu sûr qu'on va utiliser l'heure?
Ah, peut-être pas, ouais. Peut-être des kilomètres secondes même, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que ça donne le vertige quand on y pense. On n'est pas du tout sur une sphère immobile. Une sphère qui est quand même lancée autour du Soleil à la vitesse de 30 kilomètres par seconde.
Voilà.
Oui, c'est d'accord.
Non, mais c'est intéressant de voir qu'on peut... On peut faire Villefranche-Lyon en une seconde, à peu près, alors qu'il y a des gens qui ont galéré pour venir ce soir faire la technique. Merci Clara d'être là.
Tout le monde sait où j'habite maintenant.
Non, pardon, c'est vrai. Je dirais pas que tu as dit tout.
Sont terribles.
Et ben, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu avais encore autre chose à rajouter, Georges ?
C'est bon pour toi ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Et ben,
il me reste à vous remercier.
Et bah, ben, merci à toi de nous avoir fait voyager comme ça. Moi, je vais juste faire un rappel pour l'appel aux dons de Radio Canu. Annoncer une bonne nouvelle pour les auditrices et auditeurs qui souhaitaient le savoir, c'est qu'il y a maintenant 99,99999% de chances que nous achetions le local où nous sommes actuellement. Et donc, on va rester au 24 rue Sergent Blandan et ça nous fait plaisir. On espère qu'à vous aussi. Mais on a encore besoin d'un petit peu d'aide et de sous pour arriver à boucler le budget, parce que vous savez, Radio Canu, pas de salariés, entièrement autogéré, qu'avec des gens qui sont de bonne volonté et des amateurs éclairés là aussi de radio, parce qu'on n'est pas du tout des professionnels. Et bah, si vous voulez nous soutenir, faut envoyer vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Sinon, vous allez sur radiocanu.org, vous avez tout pour envoyer ou pour nous faire un virement via l'IBAN, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de la banque de Radio Canu.
Et vous pouvez aussi venir les mardis, tous les mardis, de 19 à 20 heures. Il y aura peut-être juste une coupure au mois d'août, mais courez avant pour faire vos dons, n'hésitez pas. Et ben, il y a deux, trois personnes qui font la prog, dont Fabien qui est là et d'autres personnes encore. Et vous pouvez, ben voilà, rencontrer des humains, si vous avez envie de rencontrer des humains et des humaines de Radio Canu.
Et ben, par exemple, ce sera l'occasion de rencontrer Jalel de Chez les Arts ou Judic qui fait le Canu Info du mercredi, voilà, qui sont à la prog avec moi. Et c'est l'occasion de rencontrer des animateurs. Matrice et animateur de Radio Canu. Et je voulais aussi, moi, faire un petit coucou à Nico du Petit Bazar qui m'a souhaité mon anniversaire ce matin. Voilà. Merci, Nico.
Voilà, c'est... Okay, on se check, on se recheck.
Voilà.
C'est quoi ce bordel?
Et vous... Et vous invitez à rester sur les ondes de Radio Canu, écouter plein d'émissions. Il y en a plein de très intéressantes. Voilà.
Oui.
Donc, non, mais n'hésitez pas.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, je crois, pour une causerie.
À l'ancienne.
À l'ancienne,
t'as vu.
Donc voilà.
Et on se quitte avec.
Ouais.
Et moi, je voulais juste. Je sais pas si on l'a fait. Est-ce qu'on a salué Nadège?
Ah non, on a oublié.
Ah merde.
Jonathan. Et ben voilà.
Donc
voilà,
Nadège et Jonathan qui n'étaient pas là ce soir, mais qui ont voyagé elles aussi.
Oui.
Oui.
On en est certain.
Et bisous Loulette.
Voilà.
Ok. Et ben on vous souhaite bon courage, une belle
nuit. Et on se quitte avec.
C'est vrai, on se quitte. Ok, non, j'écoute. Je m'exécute maintenant.
Allez.
Pardon. On se quitte avec Richard Strauss qui interprète.
Ah non, non, là, il interprète. Il y a longtemps que Strauss n'interprète plus rien.
C'est ainsi parlait Zara
Soustra.
Soustra ?
Ouais, Zara Soustra.
2001, l'Odyssée.
C'est pour ça que je voulais que ce soit toi qui l'annonce.
Vilaine. Et merci Clara, la technique. Ouais.
Oui.
Au revoir.
Au revoir Clara.
Au revoir.
Merci
Emma.
Au revoir.
Au revoir Georges.
Au revoir.
Au revoir Fabien.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, salut à la semaine prochaine.
Bisous.